Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est de 11h à midi comme tous les dimanches. Et avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Buenos días.
Nous étions au Templo Mayor dimanche dernier, Maurice. Où allons-nous aujourd'hui ?
Nous allons sur une place qui étrangement représente les trois cultures et trois événements historiques incroyables. Tlatelolco.
Maurice, nous sommes sur la place des trois cultures. Elle se situe où cette place ?
Alors,
c'est à Mexico, hein ?
Oui, c'est en plein Mexico, mais en fait, on a toujours l'impression que c'est en dehors. Dans la mesure où nous avons visité intensément tout le centre, et pour ceux qui nous découvrent, eh bien, sachez qu'il faut partir de la cathédrale et de cet endroit qui était le cœur de Mexico, Tenochtitlan, et puis il faut partir vers le nord, suivre mentalement une sorte de voie royale qui nous amenait à un second îlot. Alors j'ai envie de partir tout à fait ailleurs. Il y a un endroit que j'adore dans ce pays et que j'ai découvert tout à fait par hasard. Lorsqu'on sort de Mexico, on traverse naturellement la zone des volcans, on se retrouve sur les hauts plateaux, il y a du jaune partout, les premiers cactus, une ambiance un peu western comme ça, comme on s'y attend vraiment, avec des personnages d'ailleurs qui ressemblent à cela, avec le chapeau sur le côté, les paysans.
Le sombrero.
Oui, une ambiance où on voit même passer le cheval, le vieux train du nord, etc. Et puis tout à coup, vous arrivez dans une plaine infinie, et là, c'est une véritable révélation, parce qu'entre deux volcans qui ont des formes un peu pelées, comme cela, un peu comme les puits en Auvergne, vous avez une vision qui vous paraît complètement impossible. Il y a d'abord devant vos yeux une sorte de vibration, comme on l'a dans les déserts, et ensuite vous voyez une ligne qui commence par être blanche et qui finit par être bleue à l'horizon. Et derrière, vous avez naturellement ces cônes extrêmement doux qui ponctuent le tout, avec un ciel d'une clarté telle qu'on peut l'avoir à plus de 2000. Alors plus on s'approche, plus ça vibre, et en même temps, plus se détache le blanc du bleu, avec justement au centre cette ligne étrange. Et là, tout à coup, on réalise qu'en fait, on est devant un lac absolument infini. Un lac qui est véritablement pris dans une cuvette monstrueuse, mais qui est complètement nul comme profondeur. C'est-à-dire que vous avez souvent 10 ou 15 cm ou 1 mètre d'eau au maximum, et ça existe uniquement au moment de la saison des pluies, c'est-à-dire lorsque sur les hauts plateaux, au mois de juillet ou août, vous avez eu suffisamment d'eau, et petit à petit, bien sûr, à cause du soleil, à cause du climat qui est quand même très sec en dehors de cette saison, tout cela va se retirer petit à petit, et vous aurez une couche. Quand on y marche, ça, c'est assez curieux. On a l'impression de marcher sur du duvet comme cela. Vous savez, c'est de la mousse qui s'est asséchée véritablement. Quand on goûte, ça a un goût de salpêtre, bien sûr. Il y a vraiment un
parce
côté...
que vous avez goûté.
Ben oui, parce qu'il faut goûter. On se dit, mais c'est du sel ou c'est pas du sel ? Et puis en fait, ça se touche comme de l'ouate. Et c'est effectivement très salé. Et on découvre que ce lac, qui n'existe que quelques mois par année, ressemble étrangement à cet immense lac qu'était Mexico à l'arrivée des Espagnols et bien sûr au moment de l'arrivée des Aztèques dans les années 1200-1300. Et ce fait étrange, je crois que c'est le premier endroit que j'ai rencontré au Mexique où j'étais dans un état de pureté absolue, où je pouvais me ressentir celui qui faisait la première migration et qui découvrait pour la première fois la vallée de Mexico. Je vous ai dit, ce n'est pas exactement à Mexico, c'est à plus de 200 km sur la route de Veracruz, mais c'est vraiment l'état virginal de ce que devait être la vallée de Mexico.
Et c'est là où se trouve la place des Trois Cultures.
Alors, la place des Trois Cultures se trouve effectivement dans la ville elle-même, mais il y a des bâtiments partout aujourd'hui. Une ville de 20 millions d'habitants, obligatoirement, a rongé tout cela. Et aux alentours de 1964, on a décidé de restructurer un quartier complet. Nous savions, archéologiquement parlant, qu'il y avait un îlot et qu'il y avait eu ici quelque chose qu'on va décrire, qui est absolument incroyable, qui est un deuxième centre de Mexico, un deuxième îlot qui existait déjà avant l'avenue des Aztèques et qui avait un côté commercial. Alors, je reprends mon idée vide. Vous pouvez comprendre qu'il y a là maintenant des milliers de pirogues et puis au milieu de tout cela, cet îlot secondaire, puisqu'il deviendra secondaire par la suite, et qu'on va continuer à utiliser comme un lieu de culte, parce qu'il y avait une pyramide double et jumelle aussi impressionnante que celle du Templo Mayor, qu'on a déjà décrit la dernière fois, et en même temps, une sorte de place monstrueuse où pouvaient se retrouver chaque jour 60 000 personnes. Alors je crois que ça vaut la peine à la fois de remonter dans l'histoire pour revivre ce moment-là, et puis en même temps, d'imaginer tout ce qui s'est passé à partir du 13 août 1521, qui est l'instant solennel où tout l'ensemble de la pyramide aztèque va s'écrouler là, à Tlatelolco, là, sur cette place des Trois Cultures. Je trouve que c'est un moment délicat parce qu'ensuite on pourra glisser vers le moment de l'indépendance, vers les événements qui ont bouleversé la capitale. Mais il y en a un dont on se rappelle tous, c'est mai 68 à Paris et c'est octobre 68 à Mexico. Et là, vous verrez que l'histoire continue, comme s'il y avait chute après chute, un cycle qui revenait tout le temps avec de la vie et de la destruction.
Nous sommes en plein centre de Mexico, Maurice. Nous sommes sur cette place appelée Place des Trois Cultures. Pourquoi appelle-t-on cette place Place des Trois Cultures?
Ben voilà une bonne question, Frédéric. Parce que vous aurez compris que si j'ai repris d'abord la virginité de mon lac de départ, c'est qu'il a fallu d'abord arriver et construire. Donc ça, c'est un élément préhispanique. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont même précédé les Aztèques, qui sont venus s'installer sur cet îlot qui était au milieu de ce lac infini. Alors moi, je l'ai repris à 200 km parce qu'il existe encore des lacs infinis qui ressemblent à ces lacs de départ. Et ensuite, vous avez naturellement la période coloniale. Alors, il reste quelque chose de l'époque coloniale, nous allons en parler. Et puis ensuite, en 64, on a construit du moderne autour des restes,
c'est ce qu'on remarque, hein.
Des restes préhispaniques et des restes coloniaux. Et quand on voit pour la première fois cette place, c'est quelque chose d'assez touchant parce qu'on se retrouve en fait dans un enclos contemporain qui a été fait par Pagny en 1964 avec des immeubles qui ressemblent un peu à nos HLM normaux, très structurés en forme de rectangle allongé. Il y a juste une tour imposante qui correspond au ministère des Affaires étrangères. Et,
donc ça, c'est le moderne.
Ça, c'est le moderne.
Et au centre.
Et au milieu, vous avez une petite église coloniale des années 1600. On rentrera tout à l'heure à l'intérieur, on verra pourquoi elle est là. Et en devant, disons, juste devant cette église, vous avez une succession de pyramides, toujours en oignon, c'est-à-dire des sortes de jets d'escaliers comme ça qui montent 20, 30 marches, ça s'arrête. Derrière, vous avez de nouveau la même chose, parce qu'il y a eu des constructions qui se sont succédées, c'est-à-dire qu'on a créé une forme de base pyramidale petite qui petit à petit s'est augmentée.
Un petit peu comme le Templo Mayor de
Tout à fait
de
comme le Templo Mayor. La seule différence, c'est que historiquement, Tlatelolco a déjà été fondé sur cet îlot. En fait, on est sur le lac de Texcoco. Texcoco, c'est toute la partie ouest de Mexico. C'est un lac qui existe encore près de l'aéroport. On peut le survoler avec des salines qu'on aperçoit encore lorsqu'on décolle ou qu'on arrive en avion. Et il a été, disons, ce centre a été mis en avant, bien avant Mexico, Tenochtitlan, par une tribu, en fait, une sorte de faction de ces tribus sauvages, c'est Chichimec. Chichimec, j'aime bien le nom, ça veut dire, ça signifie vraiment chien sauvage, ceux qui n'ont rien à voir avec la culture.
Mmh.
Oui, ceux qui viennent du nord, enfin, des gens qui sont impossibles, des nomades, des gens avec des arcs et des flèches.
Parce que les gens du nord sont des sauvages?
Oui, chez les Mexicains, c'était vraiment l'idée. Uh-huh. C'est assez normal. Essayez de penser à la carte générale des États-Unis, par exemple, et du Mexique. Et on a déjà parlé des premiers arrivés au moment des glaciations, etc. Et puis, tout à coup, vous remarquez que c'est uniquement dans les zones tempérées, comme ici à Mexico, où il pleut souvent, où il y a des saisons des pluies bien marquées, qu'on va pouvoir planter les premiers grains de maïs. Or, en fait, dans le nord, il y avait aux États-Unis, par exemple, les bisons qui sont restés, on en a déjà parlé, et ce sont des nomades qui vont vivre dans le nord. Les grands déserts du nord du Mexique, on ne peut vivre qu'en nomade, en chassant et en suivant les animaux. C'est seulement dans cette partie centrale qu'on était cultivé et agriculteur en même temps. Donc la civilisation ne correspond qu'à des constructeurs et à des gens qui se sont sédentarisés en plein cœur de Mexico. Mmh. Alors cette tribu, en fait, c'est une dynastie véritablement, qui était originaire d'Atzapotzalco. C'est un petit hameau, aujourd'hui c'est un quartier de Mexico, qui était au bord du lac. Et finalement, on peut dire que jusqu'à la fin du 15e siècle, jusqu'en 1473 pour être très précis, c'était un petit état indépendant. Et c'est cette année-là qu'en fait, le roi, en fait, le Tlatoani aztèque, va finir par vaincre cet endroit, prendre la place. Et il y a eu un truc assez curieux. En définitive, le roi qui devait vivre auprès de cette grande pyramide, Moquilhuitl, il a été précipité en bas des marches. C'est une mort qui a dû être atroce. En fait, on a l'impression vraiment... Oui, on l'a sûrement bien poussé.
On l'a aidé.
Mais c'est une façon de montrer que... c'est un symbole assez aztèque. Hein. Quand on voulait montrer qu'on prenait un endroit, on dessinait avec le pinceau rouge et l'encre noire, on dessinait toujours un temple comme une pyramide et on y mettait le feu. C'est-à-dire qu'on renversait le temple du haut et on y mettait le feu mentalement. Donc c'est vraiment la prise sous forme d'incendie. Et là, s'il a été précipité du haut de la pyramide, c'est pour cette même idée. Et l'annexion de Tlatelolco, je crois que c'est quelque chose d'important parce que ça va rester le centre commercial absolu de la vallée de Mexico. Et j'aimerais que tout à l'heure, on puisse pénétrer dans ce centre commercial, je le dis vraiment au sens shopping du terme, pour voir un peu les produits de l'époque, qu'on ressente ça comme les premiers Espagnols qui ont vu un marché d'une ampleur extraordinaire, 60 000 personnes chaque jour.
New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman.
Nous sommes dans ce centre commercial de l'époque, un grand marché où 60 000 personnes se croisaient. Ça ressemblait à quoi?
C'est assez difficile à dire. Si vous vous appeliez Ferdinand Cortés, et que vous aviez votre première vision en arrivant à Mexico, là, en 1519, eh bien, je crois que vous auriez comparé cela à votre propre ville. Cortés avait fait des études à Salamanque, dans le droit, et il a déclaré à son secrétaire que ce marché avait à peu près deux fois la superficie de sa propre ville.
Ah non, donc c'était une ville dans une ville.
C'est impressionnant. Avec des galeries tout autour, tout à fait marquées, pour créer une sorte d'univers fermé, avec ce côté enclos, mais en même temps cette porte d'entrée principale, et l'impression que tout le monde vit par terre. Parce que c'est bien comme cela que fonctionne un marché indien. Alors, ce secrétaire qui a pratiquement tout noté nous a permis aujourd'hui de recréer une sorte de maquette de l'endroit. Alors, on ne la voit pas sur la place des Trois Cultures quand on s'arrête en voiture, parce qu'on a une sorte de voie supérieure comme ça qui nous permet de descendre ensuite comme dans un parcours qui est moderne, bien sûr, avec des voies qui permettent de voir à la fois les ruines, le côté hispanique et le côté moderne. Eh bien, on a refait cela dans la salle d'anthropologie qui est la salle Aztèque, et on a essayé de reprendre en maquette des petits personnages qui font, je ne sais pas, 15 cm de haut à peu près, et on a recréé tout un quartier de ce fameux marché de Tlatelolco. Alors le secrétaire de Cortés, Bernal Díaz del Castillo, la première chose qu'il a touchée, c'est d'abord les choses qui intéressaient les Espagnols. C'est-à-dire qu'il a vu briller quelque chose dans un coin, il s'est avancé, il a vu des marchands qui vendaient de l'or. Et puis il avait envie aussi de discuter avec ceux qui avaient des objets d'argent. Alors il y avait des bijoux absolument somptueux, et là on se rendait compte qu'on pouvait les échanger de façon, on fonctionnait beaucoup par troc en fait. Hein. Et c'est un peu la centralisation de toutes les valeurs d'un pays qui est incroyablement grand, qui est presque aussi grand, même plus grand que celui d'aujourd'hui. Et en même temps, ce qui l'a touché, c'était le fait de voir tout à coup quelqu'un qui s'occupait que de pierres précieuses et qui les travaillait. Alors bien sûr qu'un Espagnol un peu cupide, il va voir quelque chose qui l'intéresse moins, mais ils ont tous été touchés par ça, c'est l'art de la plumasserie. Alors, vous avez le bouclier.
L'art de la
plumasserie, c'est-à-dire s'occuper de ses petites plumes, celles des oiseaux, bien sûr, et de voir à quel point on était exotique dans le choix. Parce qu'on est là à 2000 mètres d'altitude, alors vous avez des plumes de colibri, des plumes de perroquet. Alors, vous pouvez créer des brillances absolument incroyables. Imaginez quelqu'un qui, par exemple, est en train de préparer un bouclier. C'était quelque chose de très fictif, un bouclier. C'était plutôt l'allure du bouclier. Donc, vous aviez quelque chose d'assez mou dessous, en cordage, et puis par-dessus, on pliait la pointe ferme de la plume, et puis on créait ainsi un motif. Je sais pas, il y en a un, par exemple, dans le musée de Vienne, où on voit vraiment un coyote complet avec quelques petits grelots d'or, des décors absolument somptueux. Ça nous rappelle aussi un peu nos images d'enfance, avec les Indiens à plumes des États-Unis.
En effet, oui.
Mais c'est un peu ça. Et c'est un art qui était poussé vraiment à l'extrême. On pouvait tout faire avec de la plume.
On ne trouvait pas que ça sur le marché.
Non. C'était simplement pour vous montrer le côté décoratif. Mais par exemple, là, vous aviez carrément des étals comme on les aurait dans un supermarché de chez nous, avec des kilomètres d'étoffes. Et vous aviez tout ce qu'on pouvait rêver de se mettre sur le dos selon la classe et le niveau de la population, avec des motifs et des couleurs qui sont absolument... on dirait qu'on les voit encore aujourd'hui quand on va chez les Indiens, quand on voit un marché indien, on se rend compte que tout cela existe encore. Et des broderies, des produits secondaires.
Vous m'avez parlé des 60 000 personnes qui se croisaient à cette époque-là, mais ces 60 000 personnes, elles étaient dans l'endroit même, elles étaient au centre de Mexico, elles venaient un petit peu partout, de plusieurs régions du Mexique.
Alors,
pour acheter ces étoffes,
Si on monte en hélicoptère et qu'on voit la place au centre, au milieu du lac, il faut penser au stationnement. Dans un parking, il faut toujours avoir une possibilité de stationnement pour le supermarché. Moi, je mettrais des milliers de pirogues qui sont là sur la bordure, des pirogues à fond plat, des bateaux comme on les utilise maintenant dans la partie du sud de la ville, à Xochimilco, par exemple, où on prend encore de façon peut-être touristique ces bateaux fleuris comme ça. Là, on venait carrément avec les marchandises, il y avait les légumes, bien sûr, tout ce qu'on pouvait produire à des centaines de kilomètres à la ronde.
C'était ma question. En fait.
Ça, c'est vraiment le marché. Mais en même temps, il y avait les produits de tout l'Empire. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment récupérer ainsi et échanger éventuellement des produits qui étaient envoyés en tribu. Quand je dis tribu, c'est qu'on devait payer son quota au centre, même si on habitait à Veracruz, même si on habitait à Acapulco, même si on habitait carrément dans le sud, tout près des Mayas. Donc c'est des objets qui avaient pu faire des centaines de kilomètres pour arriver dans ce marché. Mmh. Et il y a quelque chose qui a touché aussi d'ailleurs Bernal Díaz del Castillo, c'est le fait qu'il y ait des esclaves. En fait, des hommes qui étaient...
On vendait les esclaves. Donc.
Oui, parce que dans la société aztèque, si vous aviez commis une erreur, une faute grave. Alors, si c'est par exemple l'adultère, on vous lapide. Là, on n'en parle plus, il n'y a plus de problème. Mais par exemple, si vous avez une certaine déchéance, et que petit à petit, parce que vous buvez, parce que vous jouez, parce que vous faites des choses interdites, vous descendez dans la société, on vous retire petit à petit votre droit d'homme. Et on vous transforme ainsi en esclave.
Mais de la pyramide.
Oui, non, pas, on ne va pas forcément vous sacrifier, mais l'esclave en soi est quelqu'un qui devra peut-être un jour se racheter et pourra se racheter. Il n'est pas esclave à vie. Hein. Il faut quand même le dire, parce que ce n'est pas du tout le système romain ou grec, etc. Non, là, vous allez vous retrouver comme quelqu'un qui, pendant une période de sa vie, va se trouver enchaîné. Mais si, par exemple, son propriétaire meurt, il est libéré. Donc, il y avait un tas d'avantages quand même, finalement. Mais il y avait des gens qui décidaient que, un peu comme un clochard d'aujourd'hui, si vous voulez, ben, un marginal, il décide de s'arrêter, il ne veut plus faire partie du système. Il tombera dans ce jeu de l'esclavage, il sera nourri, logé, blanchi, et il va pouvoir se retrouver sur ce marché. Alors, il les a vus attachés à des perches, comme cela, ou même d'autres qui étaient suffisamment sages pour être libres et se balader là, ou être carrément sur une estrade en train d'être vendu. Alors, ça l'a beaucoup touché parce que, quand on se replace à l'époque, c'était le début de l'esclavage. En Europe, disons, moyenâgeuse, on avait peu l'habitude d'importer des esclaves. Mais les Espagnols, qui venaient comme lui, par exemple, venaient de Medina del Campo, là je parle de Bernal Díaz del Castillo, le secrétaire, il avait été du côté du Portugal et il s'était rendu compte que c'était une richesse absolue. Les Portugais avaient fait toutes les côtes d'Afrique. Et mon Dieu, quand on voit le peuplement de l'Amérique, du Brésil, des côtes Caraïbes, etc., ce sont tous ces Noirs qui ont été pris au départ par les Portugais qui vont être exportés de l'autre côté. Donc il s'est senti dans un marché portugais avec des esclaves qui pouvaient être échangés, même s'ils n'avaient pas tout à fait la même couleur. Alors, ça lui faisait penser à ces esclaves de Guinée, finalement. Il a donné un bon point de comparaison. Ça l'a surtout choqué, mais je ne pense pas qu'ils étaient en grand nombre, parce que ceux qui étaient libres et qui auraient pu prendre la fuite, on se rend compte qu'ils acceptent totalement leurs conditions. Ce sont de faux esclaves. On ne devrait même pas les appeler véritablement des esclaves. Alors, un peu plus loin, il a rencontré quelque chose qui l'a beaucoup intrigué aussi, et moi, ça m'intrigue encore aujourd'hui, parce que ça n'est plus en usage, mais ça reste quelque chose d'un peu sacré. C'est le cacao. Le cacao, vous avez déjà vu un cacaoyer ?
Non, jamais, non.
Non, bah alors c'est un arbre.
J'adore le cacao, mais.
Mais oui, mais c'est un arbre qui n'est pas très haut, qui doit vivre à l'ombre. Donc on le met sous des arbres plus grands. Et il a des feuilles très brillantes, il a un tronc très lisse. Et puis il a ces espèces de fruits, enfin, je crois que ça s'appelle des cabosses, qui poussent carrément sur le tronc. Et il y a juste la toute petite tige. Puis ensuite, vous avez quelque chose qui est gros comme le poing, allongé comme ça en forme oblongue, et qui a un côté verdâtre qui devient noirâtre lorsque ça devient mûr. Et puis vous cassez carrément cette cosse.
Un petit peu comme un autre coco, donc, en fait.
Enfin, oui, plus petit, mais plus doux dans la consistance. Hein. Je veux dire par là que c'est pas si dur. Vous pouvez carrément la briser. Et au moment où vous brisez cela, à l'intérieur, il y a ces gros grains de cacao qui ont la forme comme nos noix des Indes à peu près. Et au départ, c'est dans un jus un peu gluant comme cela, dans une sorte de gélatine qu'on peut utiliser d'ailleurs pour faire un sirop. Pourquoi pas sur le moment. Hein, on enlève les grains puis on garde uniquement cette gélatine et on vous frappe tout cela et on vous le sert bien frais dans une hacienda tropicale. C'est très sympa. Mais les grains de cacao se conservent très bien. Et finalement, là, il en a vu des quantités énormes et il s'est rendu compte que les grains de cacao, c'était la monnaie. C'était la monnaie de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'on utilisait le cacao comme boisson sacrée, c'était la boisson des dieux. Je vous expliquerai tiens, tout à l'heure comment on faisait du cacao à l'époque, il est très différent d'une autre. Mais finalement, ce qui est important, c'est de savoir que c'était un peu la monnaie d'échange. Vous partiez avec quelques graines de cacao dans la poche, pas d'inflation, pas de problème, c'était un peu votre billet de banque.
Nous parlions de cacao tout à l'heure, Maurice. C'était la monnaie d'échange à l'époque.
Oui, mais puis c'était.
Je commence à déambuler dans le marché et vous me parlez de cacao, ça me donne soif.
Alors je suis sûr qu'à côté du stand où on trouvait les graines en tas ou
déjà rafraîchir
dans des sacs, eh bien d'abord il faut savoir que c'était des pochtecas, c'était des marchands. Qui vraiment fonctionnaient d'ailleurs aussi comme des espions. C'était des gens qui étaient assez curieux, qui regardaient un petit peu à l'autre bout du monde ce qui se passait à l'époque. Et ces gens-là avaient pour charge d'aller retrouver un peu partout les produits de luxe. Alors le cacao, c'est vraiment le luxe des pays tropicaux. À 2000, on n'en trouve pas. Mm-hmm. Et quand on a une notion de paradis, on parle toujours de cacaoyer et de cacao. Vous voulez savoir comment ça se préparait? Je suis sûr qu'à côté des graines, il y avait sûrement une femme qui était là et qui en préparait pour ceux qui avaient une petite soif. Mais il faut comprendre surtout que ça se fait aujourd'hui encore dans les grandes fêtes. Hein. C'est vraiment une boisson sacrée. Quand je dis sacrée, c'est un peu comme on prendrait du vin chez nous pour faire la fête. On prenait du cacao chez les précolombiens. Alors on prenait les graines, on les écrasait bien sûr et finalement on mélangeait ça tout simplement à de l'eau. Alors il n'y a pas grand chose pour le moment, on est au niveau du café, hein, ça ressemble un peu à un de nos cafés, mais la différence c'est que pour qu'un cacao soit bon et on peut encore en goûter comme ça,
il faut qu'il soit frappé.
Ben voilà, je dis frappé c'est plus que cela. Vous pourrez très bien prendre une grosse jarre, hein, superbe jarre comme on en trouve encore aujourd'hui, et puis vous allez faire un instrument curieux, une sorte de bâton en bois avec des petites rondelles très découpées en bas. Vous avez peut-être déjà vu cela, on l'achète sur n'importe quel marché dans la région de Oaxaca, et ce sont des rondelles qui ont des formes différentes qui sont collées les unes, des anneaux, hein, qui sont collés les uns aux autres. D'accord. Au bout de votre bâton, ouais. Et finalement vous allez utiliser ça comme une sorte de fouet, hein, c'est-à-dire vous le prenez ça entre les deux paumes de la main et vroom, 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 vous commencez à tourner et vous créez de la mousse après pratiquement une heure de battage, hein. Ça fait une mousse d'une consistance absolument incroyable, presque comme l'ouate du lac de tout à l'heure. Vous avez vraiment une couche comme ça de 10 à 15 cm en-dessus de votre
pratiquement eau. Du lait, donc.
Non, parce que alors, le fond reste tout à fait eau et cacao amer.
Au niveau de la consistance, un peu comme le lait. Comme nos frappés d'ici.
Ah oui, mais c'est même plus consistant, parce que vous pouvez carrément le prendre au doigt, c'est presque dur, hein, ça devient ferme comme une crème, si vous voulez. Et vous laissez cela en surface, et puis vous prenez simplement une calebasse en forme de bol, et puis vous allez prendre une partie de mousse et une partie de liquide. Alors ça, c'était vraiment une boisson qui était très appréciée. Et puis, il a vu aussi sur ce marché que tout ce qu'on pouvait rêver de trouver était à la fois travaillé sur le tas. Je veux dire, par là, vous aviez le chausseur du coin, par exemple. Il comparait ça à sa ville natale, Medina del Campo. Quand on avait un marché en Espagne, on avait une rue pour les savetiers, une rue pour le textile. Ben là, c'était la même chose. Et là, on pouvait, par exemple, choisir ses sandales qui étaient faites en... On appelle ça le necken à l'époque, mais c'est du henneken, c'était du sisal ou plutôt du jute.
Ce qui n'a rien à voir avec...
Avec ? Non,
avec
pas du tout.
Non, rien à voir.
Mais en l'occurrence, le henneken, c'est vraiment le jute, si vous voulez, assez ferme. Comme ça, c'est le cactus qui vous permet, c'est une espèce de sabre comme qu'on trouve dans le sud, qu'on transforme en ficelle. Et puis là, on vous faisait carrément vos sandales à la mesure, carrément, hein, avec éventuellement quelques décors. Ça avait beaucoup d'allure. Et puis, il a remarqué que ces gens-là, qui étaient quand même des semi-nomades avant, avaient besoin de se décorer. Tout à l'heure, j'ai fait un super bouclier avec de la plume. Mais il a fallu du cuir aussi. Donc il y avait des peaux absolument incroyables, il y avait des peaux de jaguar, bien sûr. Alors à l'époque, il appelait ça des peaux de tigre, des peaux de lion, parce qu'il faisait des comparaisons avec l'Afrique.
C'était des grands chasseurs, les Mexicains.
Non seulement ils étaient chasseurs, mais ils voulaient tous les produits qui existaient dans l'Empire. Donc c'est vrai que le jaguar qui vit dans la jungle, on en voulait des peaux et on les payait en tribu aussi. On a trouvé des listes absolument incroyables où chaque village, chaque ville devait payer tribu. Et s'ils avaient de la jadéite, ils donnaient de la jadéite qui est une pierre semi-précieuse. S'ils avaient du cacao, ils envoyaient du cacao. S'ils avaient du miel, ils envoyaient du miel. Chacun devait payer quelque chose et ça se retrouvait ainsi dans ce système étrange de troc et de marché. Alors les animaux, bon, il faut dire aussi qu'il y avait relativement peu de viande dans la région de Mexico, et particulièrement sur la lagune, à part les quelques grenouilles qui traînaient et deux, trois petits poissons.
Donc il fallait faire des kilomètres.
Il fallait les chasser dans les forêts aux alentours. Donc la viande principale, je dirais que c'est le chevreuil. C'est pratiquement tout ce qu'on trouve sous ces latitudes. Et puis, bien sûr, on pouvait éventuellement utiliser des animaux de basse-cour, mais il n'y avait pas grand-chose. Il y avait le dindon, la poule n'existait pas. Hein. Ça, c'est des choses européennes. Il n'y a pas de vache, il n'y a pas de cochon, il n'y a pas de mouton, tout ça, ça vient d'Espagne. Comme le lait, d'ailleurs, je veux dire, le cacao, tout à l'heure, si je le fais comme ça, c'est seulement les Espagnols qui, au 18e surtout, et déjà à partir du 16e, vont commencer à inventer le mélange chocolat-lait, le battre de la même manière. Vous vous rappelez les premières chocolatières qu'on voit encore dans les vitrines de nos musées, il y avait le petit tube, il y avait l'endroit pour mettre le petit fouet, et on le frappait aussi à l'intérieur pour bien le dissoudre. Et il a remarqué que non seulement à partir de cela, il y avait toutes sortes de peaux et de choses qui venaient de n'importe où, mais il a remarqué que pour se nourrir, Il y avait le dindon, ça c'est vrai. Il y avait le serpent qu'on pouvait manger. On pouvait utiliser la peau ou le manger, ça c'est très bien. Tous les animaux qu'on n'aimerait pas manger aujourd'hui, mais pourtant qui se dégustent encore au Mexique. Vous pouvez avoir un stand avec des iguanes qui sont simplement attachées par les pattes et qui bougent encore.
Mais ça se mange les iguanes.
Ça se mange encore.
Ah bon?
Ah oui, quand vous partez par exemple sur la route d'Acapulco.
Quelle horreur cet animal visqueux comme ça.
Ce gros lézard? Ouais. Non, il n'est pas visqueux du tout. Hein. C'est alors plus sec.
Je n'ai jamais touché, hein, mais je n'oserais pas.
L'iguane, c'est quelque chose de très sec. Et en plus, ce sont des fillettes en général qui sont au bord de la route aujourd'hui et qui vous en tiennent plusieurs comme ça par la queue et qui vous les vendent. Si vous passez en voiture, vous pouvez acheter votre iguane pour la déguster à la maison en fin de week-end.
Ça se mange comment un iguane?
Ça se mange exactement comme un poulet ou comme du lapin.
Avec des épices
Oui, ça se cuit très bien. C'est une viande extrêmement tendre, très blanche, un tout petit peu plus filandreuse, disons, que le poulet. Mais c'est très, très, très... Je dirais même que c'est plus tendre que le poulet. Prenez du blanc de poulet, vous êtes dans l'iguane, ça va ?
D'accord, très bien.
Alors, dans les produits courants, il faut dire que la base de la diète mexicaine est assez restreinte. On prend le maïs, on fait tout avec du maïs. Mais à partir de là, vous aurez une sorte de trilogie. Moi, je rajouterai le haricot immédiatement, et spécialement le haricot rouge, qu'on trouve encore dans toutes les cuisines d'aujourd'hui. Et puis, je terminerai avec la courge.
Ah oui, ça, c'est une des spécialités du Mexique, le haricot.
Ah bah oui, aux États-Unis, on les déguste un peu partout. En chili con carne, c'est la même idée. Ah, voilà. On met des haricots aussi. Et puis, dans les choses secondaires, je terminerai peut-être par la courge. Je mettrai peut-être un peu de piment, bien sûr. Ça, c'est quand même un élément très important. Et sur le marché, on devait trouver de la marante, enfin des graines que nous n'avions pas et que nous commençons à peine à utiliser aujourd'hui, ou en tout cas qui sont assez peu fréquentes en Europe. Il n'y a pas de blé, bien sûr. Donc, ça restreint passablement. Hein, à part le maïs, on n'a pas de grosses graminées. Et puis, dans les fruits, on vendait tout ce qu'on pouvait rêver de vendre aussi, mais là ça s'arrête quand même à la région de Mexico. On avait certainement certains produits tropicaux, mais je crois que ce qui était le plus important, c'était vraiment ce côté chasseur, ce côté plume que j'évoquais tout à l'heure. Alors il y a une chose qui l'a intrigué aussi, c'est particulièrement le... Alors ça, je crois que c'est vrai que quand un Espagnol tombe là-dessus, il doit être quand même surpris. Il y avait un quartier avec des ateliers qui s'occupaient de l'amatl. Alors l'amatl, c'est le papier. Le papier qu'on a utilisé pour faire tous les livres qui étaient pliés en accordéon dans les bibliothèques précolombiennes.
La reliure n'existait pas à l'époque ?
Comment ?
La reliure n'existait pas ?
Non, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais inventé le livre tel que nous l'avons inventé relativement tard. Il faut avouer, ça ne ressemblait pas à une Torah non plus qui était enroulée sur elle-même ou un papyrus, etc. Non, c'était vraiment des choses pliées en accordéon avec une tablette. Ça ressemble plus au livre qu'on trouve encore au Tibet aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Alors l'avantage, c'est qu'on peut le lire recto verso, mais il faut le déplier comme
une carte.
Oui, comme les Espagnols disaient que c'était des draps de lit de Castille, carrément. Ou comme une carte, vous avez raison, sur une façon de le déplier en tout cas. Et ce papier, et ça les a beaucoup intrigués parce qu'ils se sont rendus compte qu'on utilisait de l'écorce de figuier sauvage et qu'il fallait la marteler longuement et en faire une sorte de pâte qui restait très filandreuse. Il y a peu de pays, il y a peu de civilisations qui ont inventé le papier dans le monde. Les Chinois, bien sûr, on a retrouvé ça effectivement avec le papyrus en Égypte et puis le papier amatl de figuier sauvage que j'évoque maintenant pour le Mexique. On peut aussi utiliser des peaux éventuellement recouvertes d'un stuc léger avant de commencer la peinture et l'écriture. Et un peu plus loin, alors ça les a fascinés aussi, et j'avoue que ça me fascine encore aujourd'hui. Allez, je vous mets dans un autre endroit. Vous êtes devant un cactus. Vous savez, ces cactus qu'on trouve dans le sud de la France, qu'on appelle les figuiers de Barbarie, qui sont un import du Mexique d'ailleurs. Ah. Et il y a des palettes, il y a des piquants, et souvent ils deviennent des cactus assez énormes. Hein. Et quand on s'approche, selon la saison et l'endroit, et particulièrement dans la vallée du sud, à 600 km de Mexico, du côté de Oaxaca, on voit qu'il y a des petites taches blanches un peu partout. Et quand on s'approche de ces taches blanches, on voit que ça ressemble à un minuscule cocon qui est bien collé sur la palette verte. Alors, vous le prenez délicatement, ça ressemble une fois de plus à l'ouate, on y est vraiment aujourd'hui, et puis vous le passez entre le pouce et l'index, et puis vous écrasez cela. Vous sentez que le centre est un tout petit peu dur, un tout petit peu dur et mou à la fois. On sent que c'est même un peu vivant, et au moment où vous écrasez, vous vous retrouvez avec la pointe du doigt complètement cramoisie. Mais vraiment d'une intensité de couleur qui vous surprend avec le blanc de tout à l'heure. Un rouge pourpre absolument époustouflant, c'est la cochenille. La cochenille qui, naturellement, est une petite larve qui s'est mise dans son cocon. Enfin,
il s'en servait pour écrire.
Ah non, la cochenille, c'était pour... On peut tout teinter au point de vue textile.
Pour l'encre,
Le côté rouge, même, je sais pas, on a fait une consommation époustouflante de cochenille au moment où les grands uniformes français étaient justement de ce très beau rouge. Hein. Là, on se reporte immédiatement dans la grande armée. Alors la cochenille, ça c'est quelque chose qui les a touchés parce que ça devait être là un grand nombre, juste à côté des herboristes. Tiens, on en parlera parce qu'on aime bien être un peu sorcier de temps en temps.
Nous sommes toujours dans cet immense marché où actuellement s'érige la place des Trois Cultures à Mexico. Évoquez-moi encore quelques produits.
Juste avant de quitter l'endroit, je me retournerai simplement pour voir. Je vous ai parlé des herboristes. On en reparlera lorsqu'on parlera vraiment des sorciers. Hein, mais il y avait une pharmacopée absolument incroyable et on la retrouve encore aujourd'hui dans un marché qui ne s'occupe que de ça, dans un quartier de la Merced, donc en plein cœur de la ville. Donc on s'occupe encore aujourd'hui de répertorier des milliers d'herbes qui servent à soigner, qui servent à jeter des sorts, etc. Et là, j'ai juste envie puisqu'on parle d'herbes, tiens, vous auriez un stand spécial. Là, voilà le kiosque du coin avec le tabac, bien sûr, qui est naturel. Une invention précolombienne et que l'on fumait fréquemment lors des fêtes.
Le tabac
est américain, bien sûr. Et puis, je me retournerai sur les trois juges qui sont là. Il y a trois hommes en fonction. Ils sont sur une estrade, ils sont assis, ils sont superbement habillés et ils règlent tous les problèmes de marchandage. C'est-à-dire s'il y a eu un conflit, ils surveillent absolument tout. On juge immédiatement.
C'est le kiosque des réclamations.
Donc. Voilà, vous avez les informations et les réclamations dans un coin. Il y a du sel aussi, c'est normal, un produit qu'on aime beaucoup. Et puis, je pourrais encore juste acheter un petit couteau suisse avant de sortir, c'est-à-dire un couteau d'obsidienne, cette belle pierre vitrifiée noire. Et à partir de là, je crois qu'on pourrait quitter le marché pour aujourd'hui, simplement parce qu'on a promis d'évoquer en fait les...
Oui, les quelques événements que vous nous parliez tout à l'heure en début d'émission.
Bah oui, parce qu'à partir de 1521, je crois que l'événement majeur, c'est ce 13 août 1521, il y a eu plusieurs attaques autour de ce marché. Il y a eu un événement terrifiant, qui est peut-être celui qui a choqué le plus les Espagnols, c'est qu'ils ont attaqué d'abord le centre de Tlatelolco, et puis ils ont raté leur coup. Hein. Ils sont arrivés comme ça sur les digues. Il faut bien penser qu'il y a de l'eau partout, et finalement on a pris toute une partie de ces Espagnols et ils ont vu leurs propres amis être sacrifiés au sommet du temple, ça devait être un choc.
Quelle horreur.
Et ils se sont vengés le 13 août 1521, puisque là ils ont pris le dernier empereur qui est Cuauhtémoc, mauvaise vengeance puisqu'il va être étranglé quelques mois plus tard dans les jungles du Honduras par Cortés lui-même, en cherchant toujours à obtenir un trésor, et quelques mois plus tard, eh bien, au même endroit, on va fonder un couvent, le couvent de Sainte-Croix, ça c'est en 1535, et c'est là qu'on va rédiger vraiment tout ce que je vous raconte, hein. Et on va prendre des Indiens qui connaissent tout et puis on va les obliger avec des hiéroglyphes à raconter tout ça en alphabet espagnol. Et il y a un homme qui s'appelle Bernal Díaz del Castillo que j'évoquais tout à l'heure, qui est le secrétaire, mais il y en a un autre qui s'appelle Sahagún, qui a été un moine qui a vraiment été le seul à tout comprendre et à tout chercher pour pouvoir ensuite mieux expliquer la Bible, mieux avancer dans l'histoire missionnaire. Et il faut s'arrêter alors à un autre événement qui me paraît très important. Après la chute, cette église coloniale existe toujours, elle est là depuis les années 1600. Il y a donc maintenant les ruines qu'on peut visiter, et tout cela est très fermé. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être de nouveau dans un enclos, un peu comme dans le marché tout à l'heure. Et
on est toujours sur la place des Trois Cultures.
On est vraiment en train de la visiter. Mais c'est aujourd'hui, parce que le 2 octobre 1968, il y a plusieurs milliers d'étudiants qui se sont réunis sur cette place et qui ont été coincés véritablement par l'armée et les troupes parallèles du Mexique, arrosés avec des hélicoptères, mitraillés véritablement pour pouvoir ouvrir les Jeux Olympiques quelques semaines après. Ça, c'est en 68. Il y a eu 300 morts au minimum. Tous les gens qui étaient placés là ont été coincés comme dans une souricière. Et il y a eu un autre événement qui me paraît très important aussi, c'est bien sûr le tremblement de terre de 1985, qui a été terrifiant parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qui avait été construit en 1964, des bâtiments d'État bien sûr, et là c'est une accusation terrible, n'avait jamais été construit de manière antisismique. Et dans un seul immeuble, qui se trouvait être ces immeubles modernes que je vous évoquais tout à l'heure, qui au départ étaient des HLM, mais qui sont devenus un peu des immeubles de luxe, puisque même le grand
Donc,
chanteur...
Donc tout autour de la place, hein,
oui,
c'est ça?
Oui, oui. Des appartements très beaux, avec des coups d'œil superbes. Mm-hmm. Il y a même la famille du grand chanteur Placido Domingo qui vivait là, par exemple, eh bien dans un seul immeuble qui s'est renversé comme un château de cartes, il y a eu 1000 morts. Et simplement pour montrer que ça a été un endroit qui a été très 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 fort. Et Octavio Paz, qui est peut-être le plus grand écrivain que le Mexique ait eu dans ce siècle, avait même écrit qu'en fait, on avait l'impression qu'ici, à Tlatelolco, comme en 1521, comme en 1968, comme après en 85, eh bien on payait systématiquement ce tribut terrible, je dirais au maintien de l'ordre cosmique, comme les précolombiens le voyaient. C'est une manière de vivre l'histoire un peu comme si on était en plein rite. Il y a quelque chose de terrifiant. Hein. J'ai évoqué le sacrifice tout à l'heure. Mm-hmm. Et quand on voit cette place aujourd'hui, qu'on voit le templo qui n'est pas vraiment major, mais qui était pratiquement de la même hauteur, je crois qu'il y avait 140 marches, ça devait être quelque chose de superbe. Quand on voit le Tzompantli, qui est le mur des crânes, où on laissait les crânes des sacrifiés à l'époque, eh bien on se rend compte que s'il y a eu des précolombiens, s'il y a eu des Espagnols, s'il y a eu la mémoire espagnole que j'évoquais, ces événements contemporains, la place des Trois Cultures, c'est vraiment le reflet absolu du Mexique, avec ses côtés positifs bien sûr, mais aussi tous ses côtés négatifs. On pourrait pratiquement réécrire l'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne simplement sur cette place.
Et où irons-nous, Maurice, dimanche prochain entre 11h et midi?
J'ai envie de vous faire rencontrer 100 000 personnes à la fois.
100 000 personnes à la fois,
bah oui.
Rien que ça.
On ira juste au nord du Grand Lac de Mexico, plus du tout dans la ville, dans un endroit qui correspond à une presqu'île à l'époque où il y avait un temple consacré à Tenancingo, la mère des dieux, cette fameuse mère un peu cruelle. Et dans ces mêmes années où on a construit le couvent de Tlatelolco, on va imaginer une véritable machine religieuse et on va inventer, avec un grand I, hein, parce qu'il faut être poli, on va inventer, comme on le fait pour des saints, la Vierge de Guadalupe. Et cette Vierge de Guadalupe, pensée à la façon espagnole, aura curieusement la peau un peu bronzée. Ce sera une Vierge presque noire, mais indienne, qui deviendra le symbole absolu de toute la ferveur du Mexique et de toute la religiosité. Je vous retrouve peut-être le 11 décembre avec ces 100 000 personnes et ce caravansérail, juste pour attendre minuit et la grande fête de la Vierge.
À dimanche prochain.